Ouverture. Je regarde s'ils sont présents, et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Vous serez observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé.
Salut à tous. Salut. Là, il est dimanche, il est 17h30. Vous êtes à l'écoute de Papillon sur le 89.5 de Radio Audio. Donc, on rappelle Papillon, émission contre toutes les prisons et le monde qui va avec, dans un sens très large, on va dire. Donc, voilà. Donc, là, on n'est pas vraiment en direct. On fait ça un peu en différé, du coup. Et voilà, c'était pour la petite info. Donc, dans cette émission, on va parler de plusieurs choses. On va parler de lettres. On va vous lire un courrier d'Omar. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines. On avait lu ces lettres. Où là, il en dit un petit peu plus par rapport à une histoire d'association, de syndicat de prisonniers, de famille de prisonniers. Ensuite, on va revenir un peu sur certaines plaintes qui ont été portées à la Talaudière. Et puis, on va passer à la lettre d'un détenu de la Talaudière, un ami qui nous a écrit et qui parle notamment de la sortie de prison. Et tout de suite, du coup, pour commencer cette émission, on a une petite interview de Sylvie. C'est quelqu'un qu'on avait déjà rencontré. Sylvie qui est une proche de détenu longue peine et notamment proche de quelqu'un qui est incarcéré à la centrale de Lannemezan dans le sud-ouest de la France. Donc voilà, on va lancer l'interview et on se retrouve après.
Voilà, donc à savoir que c'est pas une petite interview, elle va être un peu longue.
Oui, voilà, une grande interview.
Dans une cinquantaine de minutes.
Voilà.
Bon alors bonjour, on est aujourd'hui en présence de Sylvie. Salut Sylvie.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Donc en fait on t'avait déjà interviewé il y a quelques temps et c'était sous le nom de Sandrine parce qu'à l'époque tu préférais être anonyme. Aujourd'hui tu as décidé que...
J'ai décidé de m'exprimer, donc je m'exprime.
Voilà, donc en fait, toi, tu es proche d'un détenu. Ça fait une dizaine d'années que tu le soutiens. Et aujourd'hui, on voulait revenir un peu sur ce que ça signifiait être proche d'un détenu et le soutenir et se mettre un peu en lutte pour soutenir les prisonniers. Donc, est-ce que tu veux déjà revenir un peu sur son parcours et donc votre parcours commun ?
Alors voilà, je vais revenir sur son parcours. Il a été, il a pris une très très longue peine, donc deux grosses peines, non, il n'y a pas de confusion qui sont prononcées. Elles sont cumulables. Donc il avait plus de remise de peine supplémentaire parce qu'il avait refusé de se soumettre à l'ADN, donc il n'avait plus d'espoir. Il disait je sortirai jamais. Donc en faisant des reportages, des témoignages radio, ça lui a donné d'espoir. Il y a eu des conséquences en bien de son côté. Donc, on a commencé à se battre pour qu'il récupère ses remises de peine supplémentaires. Donc, au mois de novembre, il est passé au tribunal. Et effectivement, en se battant, en démontrant qu'il avait envie de se réinsérer, on a demandé que la moitié des remises de peine, qu'on lui remette au moins la moitié, on lui a tout rendu. Donc là, ça lui a redonné encore l'espoir. Et il a dit, donc, je vais démontrer à la pénitentiaire. Ils m'ont rendu mes remises de peine. Ils m'ont donné un espoir. Aujourd'hui, moi, je vais leur démontrer que j'ai changé, que je ne suis pas l'homme qu'ils disent, que j'ai fait des choses, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, je suis un homme de 40 ans et je veux démontrer à la pénitentiaire que j'ai changé et que j'ai envie de me réinsérer dans la société. Et ça, ça lui a vraiment redonné un coup de pouce. Donc, j'invite tous les détenus à qui on leur a supprimé leur remise de peine supplémentaire pour non-soumission au test ADN, de faire les démarches, démontrer qu'on a envie, démontrer qu'on veut se réinsérer, parce qu'il y a vraiment possibilité qu'on les rende. Chose que tous les détenus n'y croient pas, mais là, on l'a vécu et il a récupéré. Donc, il faut vraiment continuer le combat. Ensuite, après, le proche que j'ai et que je vais visiter en prison, on lui a remis 6 ans pour d'autres tentatives d'évasion. Donc, il a pris 6 ans de plus qui viennent se rajouter à ces deux longues peines. Mais quand même, il dit « je vais me battre, j'ai de l'espoir, c'est vrai ». Il y a des gens dehors, des émissions radio, des témoignages. Il y a beaucoup de monde dehors qui sont loin de s'imaginer le monde qui travaille là-dessus. Et on est là pour ça, pour aider ces détenus qui ont personne, qui ont très peu de famille, pour les aider à les guider au niveau du droit. Psychologiquement, oui, mais plus au niveau du droit, de les aider, leur dire « oui, il y a espoir, il faut se battre, il faut démontrer ». Et aujourd'hui, l'ami proche que j'ai, il est dans cette optique-là. Voilà, et ben moi aujourd'hui, en attendant, j'ai fait l'émission au mois d'avril 2010, sous le nom de Sandrine. Il n'avait plus d'espoir. Aujourd'hui, il a fait un grand pas en avant. Après cette émission, il a quand même donné du travail. Ça fait 16 ans qu'il est incarcéré, quand même, je tiens à vous dire, et 10 ans d'isolement, maltraitance. Aujourd'hui, il est bien traité. On lui a donné du travail. Il va passer un diplôme au mois de juin. Il a vraiment envie de démontrer à la pénitentiaire qu'il veut se réinsérer. Alors, donc là, il a vraiment un espoir, il va reposer les confusions. Même que c'est refusé, c'est pas grave, il y aura d'autres issues, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on vous ferme une porte qu'il faut croire qu'elles sont toutes fermées, les portes. Du moment où vous avez fait le deux tiers de votre peine, vous démontrez à la pénitentiaire que vous avez envie de vous réinsérer, vous avez changé, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas d'issue. C'est ça qu'il faut bien retenir pour un détenu. Et surtout, jamais refuser l'aide d'une association, de témoignages radio, parce que c'est par là que ça passe d'abord. Mm. C'est par là que les messages passent.
Mm. Et c'est marrant parce que quand tu dis se réinsérer, ça veut dire beaucoup de choses diverses, je pense. Mais on peut imaginer que c'est vouloir rentrer dans la norme et se plier à ce qu'on veut nous imposer. Mais c'est peut-être plus de dire... il veut pas baisser les bras et il veut sortir un jour et il veut avoir une vie, quoi.
Alors, quand on parle de réinsertion, quand le SPIP vient voir le détenu, elle lui dit, faut vous réinsérer, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Le détenu, quand il a une longue peine, la réponse qu'il lui dit, que je pense que tout être humain dirait, j'ai 40 ans à faire, vous voulez que je me réinsère dans quoi? Vous vous foutez de moi. Mais c'est pas dans cette optique-là qu'il faut le voir. Pas du tout, justement, c'est là que vous faites fausse route. Il faut le voir dans l'optique, je veux démontrer à la pénitentiaire, je veux travailler, je vais passer des diplômes, je me réinsère déjà. Pour eux, c'est ça la réinsertion. Démontrer qu'on a changé et qu'on n'est plus dans l'optique d'aller dans la délinquance. Déjà, à l'intérieur, démontrer aux gens de la pénitentiaire qu'on veut travailler, qu'on veut faire des diplômes, qu'on a changé. C'est ça la réinsertion. On ne dit pas réinsérer dans la société. Il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir, votre peine, elle est, vous sortez, admettons, en 2030. Il ne faut pas regarder la date de sortie de 2030. Parce que quand vous prenez le code, il y a plein d'aménagements de peine qui existent en France. Il y a la semi-liberté, il y a la conditionnelle. Je parle pour les longues peines, je ne parle pas pour les petites peines. Hein, je ne parle pas du bracelet électronique. Et il faut le voir dans l'optique, quand on a une longue peine, qu'on a fait le deux tiers de sa peine, et qu'on n'a pas de peine de sûreté ou qu'on l'a terminée notre peine de sûreté, une fois que la peine de sûreté elle est terminée, on a fait deux tiers de la peine, ils peuvent tous éventuellement avoir un aménagement de peine, mais avec des conditions. Et ces conditions, elles sont la réinsertion. La réinsertion, c'est quoi en prison? La réinsertion en prison, c'est je passe des diplômes, je cherche à travailler, j'occupe mon temps à donner, à démontrer que j'ai changé. C'est ça la réinsertion.
Et c'est vrai que pour ça aussi, c'est souvent des démarches pour lesquelles on a besoin de soutien extérieur.
Voilà, et c'est pour ça qu'il y a ces associations. C'est pas un avocat, quand vous faites appel à un avocat, il est là pour les procédures, pour les plaidoiries, pour vous défendre sur des faits qu'on vous reproche. Alors que nous, les associations, les émissions, on est là pour vous guider, pour vous dire ce qu'il y a à faire, vous motiver. On est votre coach.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Et donc, en fait, on voulait revenir... Parce que c'est le point où tu en es aujourd'hui, il vient d'un parcours un peu, et de faire face à l'administration pénitentiaire, et puis de faire tout un chemin, et au final, de se dire, allez, on va se bouger ensemble. Et donc, on voulait revenir sur cette expérience, et notamment parler parloir. On voulait te demander un peu de raconter aux gens ce que c'est que d'aller au parloir, en plus d'y aller pendant des années. Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça se passe? Comment tu le vis?
Alors, au départ, bon, les premiers parloirs, c'est tout neuf. On est devant, on a peur, on a la boule au ventre. On se dit, on ne connaît pas, on va à l'inconnu. Après, moi, j'y allais tous les mois, donc toutes les quatre semaines. Donc, au fil des mois, on commence à connaître, on est plus à l'aise. Donc, le parloir, c'est tout un ensemble, le parloir. Déjà, on voit le détenu, donc on est contente. Déjà, c'est magique, parce que pour le détenu, un parloir, c'est quand même un moment de liberté. Parce que nous, on vient lui emmener des nouvelles de l'extérieur, on passe un moment ensemble, nous, on arrive de l'extérieur, donc pour lui, c'est un moment d'évasion avec l'extérieur. On lui raconte tout ce qui se passe. Après, le parloir, il y a plusieurs phases dans le parloir. Et on se rapproche de lui, on lui donne des infos de l'extérieur, de tout ce qui arrive, on le guide, on l'aide. Et par contre, quand vous avez des soucis avec lui, le parloir, c'est l'inconvénient, c'est que par rapport déjà rien qu'au téléphone, par exemple, on se dispute, le mois prochain, on ne peut pas aller au parloir, on est là pendant un mois avec la boule au ventre, on se dit, on ne peut pas se vider, l'appeler, bon, ben, ça, c'est super dur par contre, la distance, parce qu'on ne peut pas parler comme si on se disputait avec quelqu'un de l'extérieur, on peut aller le voir. Là, le parloir, il y a vraiment des limites. La pénitentiaire, elle nous impose vraiment des... On n'est pas libre de le voir comme on veut, quand on veut, l'appeler, puisqu'on n'a pas le droit de l'appeler, il n'y a que lui qui peut appeler. Donc, il suffit que le parloir, vous êtes un peu en désaccord avec le détenu, ben là, par contre, vous ressentez vraiment qu'il y a l'enfermement. Et vous, quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes impuissante, vous avez envie de l'aider. Et vous dites, je fais quoi là? Je peux rien faire. Et c'est là, moi, personnellement, j'ai pris l'initiative donc de faire une capacité en droit pour justement dire, ben, je ne veux pas être inutile. Je veux faire quelque chose de ma vie pour lui. Pour lui, à la base, c'était pour lui. Donc après, bon, j'ai eu ma capacité. Là, je suis en dernière année de licence en droit.
Ouais, une capacité, c'est des études de droit.
Alors, une capacité en droit, c'est par exemple pour quelqu'un comme moi, j'avais qu'un CAP. J'avais pas la tête à l'école, j'avais qu'un CAP. Et pour faire des études de droit, il faut avoir le bac. Quand on n'a pas le bac, on peut passer par la capacité en droit à la faculté. La capacité en droit, elle se fait sur 2 ans. Et c'est équivalent au bac. Si vous l'avez, ça vous ouvre des études supérieures de droit en faculté. Donc je l'ai eu et aujourd'hui, je suis en dernière année de licence en droit. Que je passe début juillet et qu'après, j'irai en master si je l'obtiens. Et donc... Du moment où j'ai commencé à faire ma capacité en droit, ma licence, j'ai appris, on apprend le droit, comment les procédures, on comprend beaucoup plus de choses. Déjà là, on se sent plus inutile, on se sent utile. Donc dès qu'il y a quelque chose, on sait déjà la marche à suivre pour l'aider, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, jouer sur les mots, écrire du courrier au chef d'État, au ministère de la Justice. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'avant, on ne savait pas faire. Et aujourd'hui, je suis dans une optique de me dire, oui, je vais voir mon ami au parloir, c'est vrai, je veux l'aider. Mais au parloir, on voit d'autres détenus. Et il y en a qui n'ont pas de famille, il y en a qui ont peu de famille, il y en a qui sont seuls au monde et qui n'ont pas d'espoir. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai eu le déclic, je me dis, non, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres aussi qui ont besoin. Et donc, je me dis, pourquoi pas aider aussi les autres. Maintenant, bon, que je vais... plus au parloir pour le moment, pour des raisons personnelles, je ne peux pas retourner des talons et dire « Allez, je continue ma vie comme elle était avant. » Franchement, je ne peux pas. Parce que je sais que derrière ces murs, il y a des êtres humains qui ont un cœur. Et je ne suis pas là pour juger pour ce qu'ils ont fait. C'est quand même des êtres humains. Il faut les regarder en tant qu'êtres humains. Et ben, je ne peux plus tourner des talons. Même que j'ai eu un accrochage avec mon ami, je n'ai pas le droit de tourner les talons et dire il y a d'autres êtres humains qui ont besoin de nous. Et ben non. Et ben je dis, maintenant, je vais aider les autres détenus parce qu'ils ont besoin de nous. Ouais, donc... Voilà le parloir, ça m'amène à tout ça. Mmh. À me mettre des images de personnes qui sont dans la détresse. Et je me dis, non, il faut les aider eux aussi. Et pour les aider, je me suis dit, ben, on va continuer ce combat, mais pour tout le monde, général.
Ouais, on peut se mettre tous ensemble, tous et toutes, et voilà. Unir un peu ce qu'on sait faire. Et
voilà, donc il y a l'ARPI qui existe à Paris. Mmh.
Donc c'est l'association pour le respect des proches de personnes incarcérées. Voilà.
Qui a été créée par Catherine Charles, qui était une femme fabuleuse, merveilleuse, qui s'est battue, qui était quelqu'un quelconque au départ. Et le fait de se battre, de voir du monde, elle avait la niaque, elle est devenue quelqu'un, une vraie femme. Et elle nous a donné le bon exemple. Elle nous a donné le bon exemple. Donc elle a l'ARPI. Moi, ce que je propose, c'est que l'ARPI est à Paris et que l'ARPI fasse ses petits bébés dans toute la France. Comme nous, par exemple, on est dans la région stéphanoise, ça serait bien que un bébé de l'ARPI vienne naître à Saint-Étienne. Et qu'on aide justement les détenus de notre entourage, les familles, et qu'on les guide. On leur donne l'espoir, mais pas que l'espoir, on va leur donner du concret. Comme pour les remises de peine qu'on avait données à mon ami, c'était de l'espoir, en attendant c'est devenu du concret. Donc moi j'aimerais bien qu'on fasse vivre l'ARPI dans notre région.
Et l'autre but aussi, c'est de faire sortir des informations, des témoignages pour que le grand public... se rendre compte un peu de ce que c'est la prison, et puis aussi peut-être de se connaître entre toutes les villes pour faire passer des infos d'une ville à l'autre, d'une prison à l'autre, que les gens se sentent moins seuls aussi de manière générale, qu'ils soient dedans, dehors. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Alors moi, je pense que déjà, quand on crée une association, si on crée le bébé de l'ARPI à Saint-Étienne, on pourrait faire un blog informatique. Déjà, on peut faire des manifestations, faire des actions pour rentrer de l'argent dans cette association pour, avec cet argent justement, faire éditer des journaux, quitte à agrandir notre radio, ça passe par là. Et c'est ces actions qui vont faire qu'on pourra monter, grandir et se faire encore plus entendre. Parce qu'il faut se faire entendre justement. Et l'union fait la force. Et nous, notre devoir, c'est bien, déjà ça passe par les familles de détenus. Parce que les familles, elles sont à l'extérieur, on peut mieux communiquer avec elles. Ça passe par les familles. Déjà, il faut bien informer les familles. Il faut vraiment être partout.
Et justement, donc, pour revenir sur le parloir que tu décris comme un peu... Enfin, on voit, c'est quand même un moment qui est violent et auquel les familles sont confrontées. Et quand tu parles de faire du lien avec des familles, comment en fait il est possible... pour les familles, de rendre visible en fait ce qu'elles vivent, enfin pas uniquement comment, mais c'est aussi ce que Catherine avec l'ARPI essayait de faire. Elle décrivait les parloirs de manière très violente. Elle a déjà été mise à nu pour aller voir ses fils. Toi, enfin, le parloir est un moment violent. Et en fait, au-delà de ça, comment ces familles peuvent se renforcer en fait?
Les familles, en fait, le problème c'est qu'on est elles ont peur, elles sont dans leur monde, elles sont là, elles vont au parloir, elles ressortent, elles veulent parler à personne.
Isolement. Tu constates un isolement.
Ben moi-même, j'ai jamais sympathisé avec des familles. Parce qu'on est là, pour la personne qu'on va voir, et puis on ne regarde plus autour. Puis il se passe tellement de choses qu'on est vraiment... on devient solitaire. Et puis, il y a aussi des gens comme nous, quand ils vivent souvent les transferts, on n'a pas le temps de se rapprocher d'une famille et sympathiser. Quand il y a des transferts...
Parce que voilà, aller voir un proche en prison, aller à un parloir, c'est aussi le suivre, en fait, dans...
Eh bien, on fait du tourisme, ça, c'est sûr, puisque moi, celui que j'allais voir, comme il a eu pas mal de tentatives d'évasion, il est transféré régulièrement. Donc, quand il passe 10 mois dans une prison, on n'a pas le temps de faire... On y va une fois par mois. Donc, au moment où on commence à connaître, eh bien, c'est là où il est transféré. Et donc, voilà, on ne peut pas avoir le contact. C'est aussi ce problème de transfert. Bon, là, aujourd'hui, il est moins transféré. Il est en train de battre un record, mais bon. Donc, les familles, je pense que ça aussi, ça y fait que les détenus sont souvent transférés. Les détenus de longue peine, en général, sont très souvent transférés. Et moi, je dis justement se faire plus entendre. Nous, aller approcher les familles, par exemple, nos émissions, pourquoi pas dans les émissions, dans l'association, même vendre des CD dans l'ordre de 3 euros, même que s'ils ne peuvent pas l'écouter en direct. Mais justement, parce que moi, l'émission que j'ai faite en 2010, ils n'ont pas entendu. Et ça a donné aux détenus l'envie de se battre et la niaque quand ils ont entendu cette émission. Et le problème, c'est que faut que le message leur vienne à eux directement. Et que peut-être après, ils viennent aux familles. Parce qu'ils ont peut-être plus la niaque des fois que la famille quand ils sont à l'intérieur. En fait, il faudrait qu'on fasse passer nos témoignages, toutes les informations aux détenus.
Donc les familles restent quand même, le parloir est violent, les familles restent isolées. Il peut y avoir des problèmes lors de ces parloirs avec l'administration pénitentiaire vis-à-vis des familles. Et les familles, bien souvent, ont peur de se manifester par peur de représailles sur le détenu.
Alors justement, moi au départ, je ne voulais pas m'exprimer. Je m'étais exprimée sous le nom de Sandrine pour justement qu'il n'y ait pas de représailles sur le détenu. Et quand je vois les conséquences des associations, des témoignages radio que ça a sur le détenu, je me dis non, on va divulguer, on va s'exprimer, parce que justement, il faut bien regarder que la pénitentiaire, elle ne devrait pas faire des représailles sur le détenu, puisque le détenu, ça lui met l'étrier aux pieds pour se battre, mais se battre dans le bon sens. Donc la famille, il faut qu'elle fasse le pas de dire, eh ben non, j'ai plus peur qu'il ait des représailles. Parce que là, on est là pour aider le détenu, mais dans la voie, dans le droit, dans...
Pour le soutenir,
par la grande porte, pour le soutenir, pour pas qu'il aille dans le mauvais chemin.
Et créer un rapport
voilà.
de
Donc
force.
Donc la pénitentiaire, il faut bien qu'elle regarde ça, c'est super important, que ces témoignages, on n'est pas là pour démonter la pénitentiaire. Enfin, on est là pour dire les injustices qui se passent derrière les murs, on est là pour s'exprimer, dire voilà, il se passe ça, il y a de la maltraitance, ils sont souvent battus, ils sont maltraités, donc on le dit. Et la famille, il ne faut pas qu'elle ait peur de dire ce qui se passe, parce que quand on se bat, on fait des témoignages radio, des témoignages journaux, donc on divulgue ce qui se passe. La conséquence derrière, c'est que le détenu, il a encore plus envie de se battre et plus envie de se lutter, et inconsciemment, il a plus envie de faire des conneries, il a envie de continuer à se battre et justement être dans le droit. Donc la représaille, elle n'existe plus, elle disparaît. Moi aujourd'hui, je témoigne, j'ai pas peur des représailles sur lui, parce que oui, j'ai dit tout ce qui se passait, j'ai divulgué ce qu'il avait vécu, qu'il a été maltraité, qu'il a été battu, j'ai tout divulgué. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, je regrette une chose, c'est d'avoir pas divulgué mon vrai prénom. Je m'appelle Sylvie, aujourd'hui je le dis. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde le parcours de mon ami, eh ben, il va dans le bien, il ne va pas dans le mal. Aujourd'hui, il se réinsère, il a un travail, donc il ne faut pas avoir peur de divulguer tout ce qui se passe.
En fait, toi, tu serais... Enfin, t'es vraiment dans cette idée... Enfin, on n'est peut-être pas forcément d'accord sur le fond du bien, du mal. Enfin, soit c'est propre à des opinions, à des discussions, etc. Donc, nous, on pourrait en discuter et voilà, et dire... Mais c'est quand même... nous, on pense qu'il y a vraiment un fonctionnement... Enfermer des gens, ça nécessite un fonctionnement de l'administration pénitentiaire qui soit par nature, enfin vraiment par essence violente et qui soit comme ça. Mais en fait, ce qui est intéressant vraiment dans ce que tu dis, c'est de... par exemple, sur l'exemple de ton prénom, que tu avais utilisé un autre pseudonyme, c'est de visibiliser ces situations-là, en fait.
Voilà.
C'est vraiment ça, l'importance, enfin, dans ce que tu dis. Et voilà. C'est l'importance, c'est visibiliser les situations des... Des voilà. prisonniers, des prisonnières, voilà. enfin de vraiment, et des proches.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ce qui se passe à la pénitentiaire, comme ils sont traités, s'il n'y a pas de nom, il n'y a pas...
Et de soutien. Et
voilà,
de soutien.
Voilà, et ben ça passe... on peut raconter n'importe quoi. Moi, quand je dis quelque chose et qu'il se passe quelque chose et que c'est vrai, ce qu'il a vécu, c'est vrai, il a vraiment vécu, il a eu la maltraitance, et ben aujourd'hui... Je veux qu'on dise, oui, c'est elle qui le dit, parce que vraiment, c'est une histoire vraie, c'est pas un conte de fées. C'est pas un dessin animé, c'est pas un film, c'est la réalité. Et les gens, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls au monde, parce que justement, on vit tous la même chose. Donc le but, c'est de se rapprocher, de divulguer ce qui se passe, pas avoir peur de s'exprimer. Pourquoi ils ont peur de s'exprimer, les gens? Moi, je m'exprime, je m'appelle Sylvie, oui, je le dis, tout haut, tout fort, il a été maltraité. Et la représaille, j'en ai pas peur, j'en ai plus peur. Parce qu'aujourd'hui, faut regarder qu'on est tous des êtres humains et ils n'ont pas le droit de nous faire ça. Moi, je ne regarde pas que moi, je suis rien. Et lui, il est, par exemple, ministre. Il a quoi de plus que moi? C'est un être humain à la base. Donc, j'ai le droit de m'exprimer. Puis, il y a la liberté d'expression. Donc, je suis désolée. Il faut dire ce qui se passe. Il n'y a que comme ça que les choses avancent. Quand vous avez un souci, vous travaillez dans une usine et il y a des problèmes et vous ne dites pas. Le problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grossir, il va grossir, il va grossir. Et ça va vraiment exploser. Si vous crevez l'abcès tout de suite, au fur et à mesure, l'usine, l'ambiance, elle va aller de mieux en mieux. Il faut divulguer des choses, il faut dire. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, il faut le dire. On est dans un état de droit, on a le droit de s'exprimer. Les lois, elles sont pour tout le monde, donc il faut s'exprimer, il faut le dire. Que les lois, souvent, elles ne sont pas appliquées comme elles sont écrites dans le code. Il y a la théorie et il y a la pratique.
Et parce que pratique, vraiment, toi, tu es dans cette optique de l'application du droit.
Voilà, c'est en ça. Plus maintenant,
ton combat, c'est celui-là, l'application du droit.
En plus, maintenant, je ne le vois plus comme je le voyais avant. Maintenant, quand je vois les situations, je mets le droit en parallèle, le droit français, et je me dis non. Je me dis non, c'est pas comme ça. C'est pour ça que je dis, faut divulguer. Moi, j'ai plus peur de divulguer. Mm-mm. Tant pis, ça coûte ce que ça coûte, mais il faut divulguer.
Tu voulais poser une question avant qu'on fasse une pause.
Moi, je voulais faire une remarque. En fait, c'est en plus, quoi qu'on pense du droit, moi, je suis un peu critique sur le droit et la justice, comment ça fonctionne et le fond de tout ça. Mais dans tous les cas, quoi qu'on en pense, c'est sûr que c'est un outil hyper important de se réapproprier pour les prisonniers et pour leurs proches, quoi. Et donc, c'est super bien d'avoir des gens qui s'y connaissent comme toi pour bouger aussi à ce niveau-là.
Qu'il soit, enfin, que le droit soit pas au service d'un compte en banque de juriste ou enfin, voilà, que ça soit vraiment détourné dans le sens...
Oui, bien sûr. De toute façon, moi je dis le droit, c'est bien de le savoir parce que il y a des choses que je savais pas et qu'aujourd'hui je sais, des choses qu'on peut faire et qu'on peut pas faire. Et si on n'a pas, on se familiarise pas avec le droit, il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Ouais. Moi je n'ai pas la prétention de dire que je suis loin d'être un avocat. Il y a encore au moins 2 ans et demi d'études. Mais quand même, quand on sait, j'ai quand même 4 ans de droit derrière moi, et quand on apprend, on voit, on ne peut que lui donner la bonne... Et nous, dans nos associations, j'invite les familles à y venir et à participer au témoignage, c'est qu'il y aura tout le temps quelqu'un de présent pour vous. Nous, on vous mettra des juristes, il y aura quand même quelqu'un de présent pour vous guider dans le droit. Moi, par exemple, si on fait un petit bébé de l'ARPI à Saint-Étienne, moi, je m'investirai à fond dans le milieu juridique pour aider les gens. Ça, c'est sûr. On ne va pas les laisser, seuls. On est là pour s'aider.
De l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 FM et nous sommes toujours en présence de Sylvie, notre invitée. Nous continuons l'interview.
Je voulais rajouter pour les gens qui prendraient en cours de route, Sylvie qui est là parce qu'elle est proche d'un détenu longue peine depuis des années, qu'elle le soutient et qu'elle veut soutenir d'autres prisonniers.
Ouais. Et du coup, donc, on avait une petite question, on t'avait précédemment interviewé et dans cette interview, tu disais que les détenus, en fait, les détenus en général meurent à petit feu sous nos yeux, en fait, c'était tes propos, et c'était en ces termes-là que tu t'étais exprimé. Et
quand ils ont pris une longue peine,
ouais, surtout quand ils ont pris une longue peine. Et cette année, on va voir dans les médias, il va y avoir tout un foin sur l'abolition, les 30 ans de l'abolition de la peine de mort. Donc il y aura un anniversaire, etc. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, justement, de cette abolition de la peine de mort, alors que tu dis que des détenus meurent à petit feu sous nos yeux?
Alors pour moi, l'abolition de la peine de mort, c'est une belle pièce de théâtre. Ça, je le dis haut et fort. Parce que avant, ils étaient clairs. Voilà, on commettait un crime, l'abolition de la peine de mort, pas l'abolition, Il y avait la peine de mort, on était guillotiné, point barre, c'était terminé. Aujourd'hui, on est dans la longueur des peines. Plus on va, et plus le code pénal devient répressif, et plus les peines s'allongent. Avant, maximum, c'était 20 ans. Aujourd'hui, on arrive à des peines indéfinies, à des 40, 45, 50. On prend l'exemple apparemment sur les États-Unis. Donc, pour moi, l'abolition de la peine de mort, c'est une pièce de théâtre. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est plus clair. Aujourd'hui, on dit, bon, ben en France, on a aboli la peine de mort. C'est bon, on ne risque plus la mort. Mais quand on a des êtres humains qui ont pris des longues peines, des peines indéfinies, et qui savent qu'ils sont là, ils sont rentrés à 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qu'il a 40 ans, 30 ans à faire, je suis désolée, mieux vaut la peine de mort. Donc finalement, c'est la prison à vie, avec la maltraitance qui vient se rajouter, l'isolement, on est coupé de ses familles, parce qu'au bout de tant d'années, les gens ne viennent plus les voir, donc on se retrouve à la fin seul au monde. On meurt à petit feu, comme quand vous tuez quelqu'un, mais vous lui faites vous le maltraitez à petit feu jusqu'à qu'il meure, vous savez, quand vous faites des tortures, voilà. C'est de la torture blanche, hein, de toute façon. Je suis désolée, hein, c'est de la torture. Hein. Donc, vous torturez quelqu'un pendant des années, il est isolé au fil du temps, coupé de sa famille, maltraité. Alors, ça, on va où ? On va à la mort, de toute façon, puisqu'on sait qu'on sortira quand on sera vieux ou on sortira jamais. Donc, résultat des courses, c'est la prison à vie, pour moi, elle est pire que la peine de mort. Donc, en fait, ils auraient mieux... Pour moi, c'est enlever la peine de mort et mettre ça derrière... c'est être encore plus répressif. Donc, c'est pire que la peine de mort. C'est comme quand vous séquestrez quelqu'un, vous savez qu'il va rester toute votre vie avec lui, vous allez le tuer, mais vous le faites à petit feu. Mmh. C'est exactement pareil. Au moins, avant la peine de mort, allez, guillotiner, on n'en parle plus. La famille, elle est dans la tristesse, mais pour une maman, admettons, qui va voir son fils qui a pris 30 ans, 40 ans de prison. Bon, une amie, une femme, c'est dur. Mais une maman qui va voir son fils en prison, elle est déjà d'un certain âge. Elle a, mettons, 50 ans. Lui, il a 30 ans, elle a pris 30 ans. Donc, elle sait déjà qu'elle est condamnée à vie à aller voir son fils. Elle le voit mourir à petit feu. Elle le voit s'isoler. C'est horrible pour sa mère. Une maman qui perd son fils subitement, comme ça, il a été guillotiné, elle va être triste, mais le temps va apaiser la douleur. Là, il n'y a pas d'apaisement. Là, on le voit vraiment... On voit la personne quand il est rentré et on voit les années défiler. Donc pour moi, l'abolition de la peine de mort, c'est de la pièce de théâtre. C'est rien de plus, rien de moins. Donc ils peuvent faire les 30 ans, les 40 ans. Il ferait mieux de travailler sur la longueur des peines. Ça, au moins, on dit les États-Unis, au moins ils sont clairs, il y a la peine de mort. Voilà, c'est clair. Aujourd'hui, nous, en France, on n'est pas clair. Parce que la peine de mort, c'est l'abolir, c'est... Oui, c'est bien de l'abolir. Mais il faut regarder derrière ce qu'il y a aussi. On travaille sur une chose, c'est pas pour aller plus profond encore. Il faut aller en mieux. Je dis pas d'excuser tous ces criminels, tous ces détenus, enfin tous ceux qui ont commis des délits, des crimes. Non, je dis pas les punir. Oui, il faut les punir. Mais il y a d'autres moyens. Quelqu'un comme ça qui fait 40 ans de prison, maltraité, coupé de sa famille, coupé de tout le monde, je suis désolée, quand il va sortir... il ne peut pas être bien, il peut être que malin. Donc pour moi, la peine de mort, c'est... Moi, j'y crois pas. Pour moi, il devrait travailler plus sur les longues peines. Ou alors, rétablir la peine de mort. Par exemple, je vais en venir... je ne voulais pas en venir, mais bon, on est obligé d'en arriver.
Quand tu dis rétablir la peine de mort, en fait, c'est... Enfin, c'est...
Il faut rétablir... ils n'ont qu'à rétablir, au moins c'est clair.
Voilà, en même temps, c'est un peu quand même sur un mode ironique, en fait.
Oui, parce d'accord. Que j'aimerais pas. J'aimerais pas. C'est pour être plus franc, plus sincère avec le citoyen. Parce que là, c'est mettre un voile, c'est pour nous faire avaler la pilule. On abolit la peine de mort, donc ça devient moins répressif. Mais quand vous voyez derrière, je suis désolée, quand vous creusez vraiment derrière, je suis désolée, ça va en empirant. Et quand même, faut pas oublier que la France, on fait partie de l'Union européenne aussi. Et l'Union européenne, tous les pays de l'Union, je ne parle pas des pays du monde, parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais regarde ce qui se passe dans les prisons au Mexique, oui, mais regarde. » Non, je vous parle des pays de l'Union européenne. Européenne, la petite Europe, 27 États. La France, on est un des pays les plus répressifs par rapport aux peines de prison. Donc, on se met en parallèle sur des lois dans d'autres pays de l'Union, mais il faudrait regarder ce qui se passe dans d'autres pays de l'Union sur les longueurs des peines. On est quand même un des pays les plus répressifs. Il faut, y arrêter maintenant. Alors, et quand je vous parle de la peine de mort, on va en venir. Donc, y en a qui suscitent parce qu'ils ne supportent pas. Donc, on parle aussi en prison. Je suis obligée d'en arriver là. Je ne voulais pas en arriver là, mais on est obligé d'en parler. C'est la religion. La religion, on dit, bon, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans. Je vous prends les trois grandes, les trois grandes religions. On dit, si tu pratiques ta religion à la vue, on est catalogué tout de suite, ou islamiste, enfin c'est plus, faut pas se voiler la face, c'est plus sur l'islam qu'ils ont, par rapport au terrorisme, c'est clair. Mais maintenant, il faut qu'ils arrêtent de faire le parallèle entre le terrorisme et le pieux qui fait sa prière, qui fait... Il faut arrêter d'associer ces deux personnages. Terroriste, c'est une chose, et un être humain qui est en prison et que son seul but, son seul espoir, s'il se retourne vers la religion parce qu'il n'a plus rien, et il se retourne vers Dieu, on ne peut pas le punir, on ne peut pas lui dire « Oui, toi, tu es un terroriste parce qu'il s'est retourné vers Dieu alors que c'est son seul espoir. » Ça, on n'a pas le droit de l'enlever. En attendant, il n'y aurait pas la religion. Ils auraient combien de suicides en prison? Ils pourraient multiplier par 10 les suicides. Parce que, comme que ce soit dans la religion chrétienne, dans la religion juive, dans la religion musulmane, il est interdit de mettre fin à ces jours. C'est un grave péché. Donc, ils ne le font pas. Puisque c'est leur seul truc et ils y croient durement, fermement, parce que c'est leur seul espoir. Il ne faut pas oublier, on reproche la religion. À la base, en France, le code civil... Il a été écrit, il est quand même tiré des lois de Dieu. Il ne faut pas oublier, le code civil, les lois, elles étaient tout le temps, parce qu'avant, l'État était en accord avec l'Église. Et il y a eu la séparation en 1905. Après, donc, on était toujours en parallèle avec les lois de Dieu. Donc, c'était avoir une morale, avoir... Et aujourd'hui, la société, elle évolue. Donc, le code, il est obligé d'évoluer, on modifie certaines lois par rapport à la société. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'à la base, je ne suis pas là pour faire une séance de culte, mais quand même, il ne faut pas oublier que la religion, en général, que ce soit dans le christianisme ou l'islam ou juive, elle est là pour vous mettre dans la droiture, d'être droit, de ne pas faire, pas voler, pas ci, pas ça. Alors, laissez-leur leur dernier espoir. Sinon, les suicides, ils seront multipliés par 10.
Et c'est clair. Moi, ce que je me dis, c'est peut-être un peu caricatural, mais je me dis, apparemment, toi, tu l'as constaté, il y a des gens qui ont des longues peines et leur dernier espoir, c'est de s'en remettre à la religion et de pratiquer. Et moi, je me dis, c'est peut-être un peu naïf, mais s'il y avait aussi... Enfin, il y aurait peut-être d'autres moyens aussi d'avoir de l'espoir ou des raisons de vivre et de survivre à tout ça. C'est de se dire, ok, on peut se bouger et d'avoir du monde autour, comme une lutte, quoi, de savoir qu'on peut lutter. Je sais pas si c'est clair, mais...
Qu'il ne soit pas, en fait, unique. Enfin, en fait, moi, comment je le vois d'un point de vue personnel, la religion, elle fait aussi accepter, enfin, tu vois, un état de fait, d'enfermement, etc.
Et là, voilà. Alors, en fait, la religion, c'est...
Enfin, elle sert quelque part l'administration pénitentiaire, l'enfermement, quoi.
Voilà, et ben, il y a des détenus qui tiennent le choc par rapport à ça.
Alors, c'est ambivalent, en fait.
Voilà, je dis pas il faut aller prier tous ensemble, non, c'est pas ce que je dis. Chacun prie dans sa cellule, par contre, voilà, ça c'est personnel, on n'a pas à divulguer, aller prier dans la cour, la promenade, non. Ça, après, c'est personnel. Mais voilà, c'est pas parce que quelqu'un fait sa prière dans sa cellule qu'il faut le cataloguer, quoi. C'est son seul espoir, faut pas lui enlever ça. Après, on y croit, on y croit pas, c'est autre chose, c'est un autre débat, on n'est pas là pour débattre de la religion. On est là pour dire, heureusement qu'il y a ça, finalement. Parce que les suicides, ils en auraient plus sur le dos, ça c'est sûr.
Et ça c'est sûr que de toute façon, il y a l'Observatoire des suicides et morts suspectes en détention qui tient le compte des morts en prison, et il y a un suicide tous les 3 jours, je crois, en prison en France. C'est des gens, en général, qui ne se seraient pas suicidés s'ils étaient dehors. Donc, on peut quand même vraiment dire que la prison, elle tue, quoi.
Ah, mais
donc,
ça,
l'abolition
c'est
de la peine de mort...
Voilà. Ouais. En fait, l'abolition de la peine de mort, on va dire ça comme ça, moi, je le vois comme ça, il se déculpabilise l'État. C'est-à-dire, il dit, c'est pas nous qu'on l'a tué. Avant, c'est eux qui prenaient l'initiative, la guillotine, on l'a tué, ça y est, on a mis fin à ses jours. Aujourd'hui, on a aboli la peine de mort, le détenu, il est là, mais eux, ils ne passent pas à l'acte à le tuer directement. Ils se tuent tout seuls, donc ils ne sont plus coupables. C'est plus eux. Nous, on a aboli la peine de mort, ça, on n'a rien à voir. Voilà, c'est pour cacher ça, en fait. Ouais. C'est eux qui passent à l'acte. Là, il meurt à petit feu, ou il se tue, il met fin à ses jours. Donc finalement, eux, ils se disent, nous, on est couverts, c'est pas nous. Voilà.
Bah voilà, c'est vraiment voilà. comme tu dis, ne pas être, enfin, il ne faut pas être dupe de ça.
Voilà.
En fait.
Donc c'est une pièce de théâtre, c'est bien ce que je dis. C'est bon, voilà, il faut se réveiller, c'est bon, stop, on a compris. Voilà, moi perso, j'ai compris.
Ok, et pour terminer, tu voulais revenir sur quelque chose, profiter de l'interview parler de une autre interview.
Alors, j'ai été interviewée par des. Un journaliste qui a fait un article donc sur les proches de détenus pour en fait le thème c'était à côté d'une prison qui est dans les Hautes-Pyrénées en France, il y a un hôtel, il n'y a pas de maison d'accueil pour les familles, donc c'est un hôtel, donc une commerçante, et le thème c'était le rôle de la commerçante avec les familles de détenus. Voilà, c'était le thème.
Parce que les gens viennent de super loin pour voir leurs proches.
Moi, je faisais 530 km, donc on est obligé d'aller à l'hôtel. Ce qui coûte, j'avais dit 200 euros dans l'interview, que ça me coûtait 200 euros en fait. Non, ça coûte 300 euros, de plus que gasoil a augmenté. Donc, il a fait cette interview donc, dans ce thème-là. Donc, j'ai été invitée à en être témoignée. Donc, c'est un journal, un magazine féminin hebdomadaire qui date du 20 mai où il y a un article sur cet hôtel sur les longues peines. Donc on a été entendu et dans cet article, je tiens à y revenir et ça me tient à cœur.
C'est pas vous avez été entendu, c'est vous avez été interviewé.
Interviewé, c'est clair. Donc on était carrément consentantes. Par contre, il y a des choses qui ont été dites dans cet article que je ne suis pas d'accord du tout. Donc, le journaliste a posé des questions à plusieurs personnes, et une note a vite fait sur son calepin. Et quand j'ai lu l'article, il m'a fait aucun frisson, de toute façon, et tout a été mélangé. Il y a des choses que des personnes ont dites qui ont été redites par d'autres personnes. Je vais vous prendre un exemple, voilà. Le père de mes enfants, mon compagnon, il dit ce qu'il a dit. Donc, je vous reprends la phrase pour que vous compreniez. On les a vus grandir, on jouait ensemble et eux faisaient deux braquages par semaine. Et bien ça, j'ai appelé le journaliste et je lui ai dit, d'où vous sortez cette phrase? Mon compagnon connaît, d'une part, ni le détenu que je vais voir, mon compagnon, le père de mes enfants, ne connaît ni le détenu que je vais voir, ni ses amis. Il a connu ses amis par mon biais, donc il n'y a pas des années de lumière, il y a peut-être 5-6 ans. Donc il ne se serait jamais permis de dire, je les connais depuis ma plus jeune enfance, on joue ensemble, chose fausse, ce que j'ai dit aux journalistes, comment vous avez pu écrire une chose pareille, alors que lui ne les connaissait pas, il ne serait jamais permis de dire une chose pareille. Donc premièrement, c'est de la diffamation, parce que c'est des choses qu'il n'a pas dites, donc après ça peut se répercuter. Vous savez, les journalistes, ils parlent, mais tout ce que vous pouvez dire, ils l'interprètent à leur façon. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent faire passer des choses pour accabler les détenus, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai pris aujourd'hui. Et au lieu de passer par la pénitentiaire, ils passent par la famille. Voilà, ils sont passés par nous pour faire passer des informations. Et ben, je trouve que c'est pas honnête. C'est pas honnête du tout. Voilà. Et ça, je tiens à revenir, il l'a pas dit. On m'a dit que c'est vrai qu'on était dans une région où c'était très concentré de braqueurs, de délinquants. C'est vrai, la Loire, ils l'ont dit. Voilà, mais il n'a pas dit, et ça, je trouve que c'est quand même... Et ils ont dit beaucoup de choses aussi. Ils ont parlé par rapport aux familles, qu'elles mettaient des sandwichs dans leur... Donc ça n'a pas été dit.
Qu'ils faisaient rentrer des en douce au parloir.
Au contraire, on a beaucoup parlé des surveillants de la Meuse en disant qu'ils étaient très humains. Donc, en disant ça, ça contredit nous ce qu'on dit vis-à-vis des suivants, parce que nous on dit, là-bas c'est vrai, ils sont humains par rapport à d'autres prisons. Donc en disant ça, ils mettent le surveillant dans une mauvaise posture et nous, ils nous font mal voir. Alors que ça, c'est des choses qui n'ont pas été dites. Si après, ils prennent... j'ai appelé le journaliste pour avoir une... Et en plus, j'avais dit au journaliste, avant de publier l'article, je vous donne mon adresse mail, je veux le lire. Comme je lui dis, vous n'avez pas tenu votre parole, vous l'avez publié sans m'en faire part. Déjà, il a, pour moi, le contrat,
Il l'a rompu.
Il n'a pas été honnête. Et moi, j'estime que... Et il m'a dit, oui, mais je parle de toutes les prisons en France. Donc, ça veut dire que toutes les infos que vous avez de toutes les prisons, eh ben, vous l'avez mis dans cet article. Donc, c'est ces familles qui ont été interviewées, ben, ça tombe sur leur dos. Eh ben non, je ne suis pas d'accord.
Ouais, en fait, c'est souvent les journalistes, dans tous les cas, ils vont piocher à droite, à gauche pour donner toujours un peu la même image de la prison. Et forcément, les prisonniers ou leurs proches, quand ils parlent, c'est souvent pour qu'on déforme leurs propos.
Donc,
mais justement, ce que tu dis, moi, je me dis, aïe, 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 les gens qui nous écoutent, ils pourraient croire que nous, on va faire pareil. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour ne jamais faire
ça? Alors, faut bien faire la part des choses entre un grand magazine multinational, qu'eux, ils ne sont pas libres d'écrire ce qu'ils ont envie. C'est comme TF1, il y a le CSA derrière qui censure. Et ben les grands magazines, je pense que c'est pareil. Voilà. Nous, on est des associations, on n'est pas censurés comme eux. Nous, on joue vraiment sur la liberté d'expression. Eux, ils ont la liberté d'expression, mais quand même, ils ont intérêt à pas dire... Ils peuvent pas écrire ce qu'ils ont envie, malgré tout. Malgré tout, ils peuvent pas dire vraiment...
Bah là, il y a quand même, c'est même pas, il peut pas te dire, c'est là vraiment, il y a une déformation des propos en plus.
Oui, mais là, ils défendent pas l'État. Donc, ils sont permis. Ils déforment ce que des familles ont dit. Ils pourraient pas. Alors, ils ont qu'à dire tout ce qu'on. Alors, pourquoi ils écrivent pas quand on démonte? On dit ce qui se passe dans les prisons. On dit ce qui se passe derrière les murs. Pourquoi ils écrivent pas? J'aimerais bien qu'ils m'expliquent. Par contre, quand les familles disent. Ils font passer par les familles, quand les familles disent des choses, là, ils écrivent. Parce que c'est clair, dans la balance, l'État et le citoyen...
Il y a aussi le discours médiatique, de manière générale, sur la prison, on cherche le côté sensationnel, etc.
Voilà.
Et il y a même une phrase, à un moment, qui concerne, qui est locale, il rajoute, c'est vrai que dans les films noirs, il y a toujours un Stéphanois.
Il y a un film où il y a un Stéphanois, c'est le juge Fayard. Je pense qu'il n'y a que ce film. Donc, il faut y arrêter. C'est pareil, si vous êtes dans le sud, il n'y a pas que Saint-Étienne, il faut arrêter.
Ils s'appuient sur une parole, ils la tournent à leur manière pour valider leur propre interprétation. Ils parlent, encore une fois, ils parlent et ils ne vous ont pas laissé la parole dans cet article. Ils parlent à votre place au final.
Y a des choses que j'ai dit qu'ils ont repris, mais bon.
Mais le discours général, c'est qu'ils parlent à votre place.
Voilà.
Puis une des manières de se mobiliser, et nous, un peu notre approche, c'est vraiment de laisser parler les prisonniers et leurs proches de eux ce qu'ils ont à dire et pas d'aller déformer ce qu'ils disent. Et en plus, si les gens disent t'as déformé mes propos, ils auront le droit de revenir et de dire t'as déformé mes propos, ou de réécrire.
Et en plus, là, il y a beaucoup de choses qu'on a dit qu'il a pas mis, comme par exemple dans cet hôtel, la propriétaire, je disais, ce qui est formidable dans cet hôtel, c'est qu'elle est commerçante et elle se détache de la commerçante pour venir à notre aide. En fait, elle voit plus, quand elle est avec nous et les familles des détenus, ce que j'expliquais, ce qui était fabuleux, c'est qu'on ne voit plus la commerçante. Ça fait 50 euros la chambre ou 30 euros, je dis des chiffres. Quand on rentre dans cet hôtel, il y a un bar, on discute avec elle, on se vide. Elle se détache carrément de la commerçante. C'était le thème, c'était ça le thème. On ne parlait pas de braqueurs, on ne parlait pas de détenus, on ne parlait pas de... Le thème, c'était l'hôtel. Voilà, la propriétaire de l'hôtel, la relation qu'elle crée avec les familles. Une relation humaine, une relation... qui ressemblerait plus à l'association qu'au commerçant. En fait, elle se détache de ça et elle aime ça parce qu'elle a découvert un monde. Et elle disait, s'il ferme la pénitentiaire, je déprime. Parce qu'elle s'est vraiment attachée à ses familles.
Bon, mais sinon, ils peuvent fermer la prison.
Oui, voilà. Non, c'est ce qu'elle disait. C'est pour vous expliquer le thème. C'est pour vous expliquer le thème de cet article et où on en arrive. Voilà. Donc, il faut bien se méfier quand les grands journalistes se déplacent. à peser vos mots et...
Donc voilà, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est par le biais de l'émission Papillon, enfin, et de ce type d'émission, parce qu'il n'y a pas que l'émission Papillon, il y en a d'autres en France, il y a l'Envolée à Paris, il y en a dans plusieurs villes, etc. C'est vraiment... c'est généralement dans des radios associatives que ça se fait. C'est une réappropriation par les proches, par les détenus, d'un média pour pouvoir s'exprimer, en fait. Voilà, et voilà. Que ça ne soit pas déformé. C'est voilà. Vraiment...
Et en plus, c'est
vraiment... Et ça, c'est un premier travail dans cette lutte contre voilà. L'enfermement, en fait.
Et en plus, par les émissions radio comme Papillon, L'Envolée, la personne s'exprime directement, en direct. Donc, on ne peut pas déformer. Mmh. C'est pas possible. Voilà.
On entend des bruits parasites. Boum, on va conclure, peut-être. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Eh bien, j'ai ajouté qu'il faut vraiment... l'union fait la force. Il faut vraiment que les familles viennent à nous et qu'on les aide. Les détenus, il faut qu'ils reprennent espoir. Il y a du monde à l'extérieur, on est là pour les aider. Je les invite à contacter les associations par le biais des courriers, écrire aux associations et vraiment qu'ils viennent et qu'ils viennent nous dire ce qui se passe et que nous, on fasse passer l'information pour pouvoir les aider.
Et les accompagner aussi dans leur choix voilà, de lutte, en fait. Voilà, c'est aussi voilà, ça. Pas voilà. Lutter leur dire, à leur place.
Voilà, quoi. Vous en êtes où? Vous en êtes là. Bah, vous, pour ça, il y a ça à faire. On va vous accompagner dans votre cheminement, les démarches et tout ce qu'il y a à faire.
Mm-hmm. Ok, donc on donnera notre adresse à la fin de l'émission.
Ça serait bien.
Ça oui. Pourra permettre d'être un endroit où les gens pourront nous contacter ou te contacter.
Voilà, voilà.
Ben merci Sylvie.
Merci à toi. De rien. Et bon à très courage. Bientôt.
Au revoir.
Ciao.
Papillon sur Radio Dio. Donc on vient d'écouter l'interview de Sylvie, proche d'un détenu longue peine. Et maintenant, et puis ensuite on a écouté un morceau de Dandy qui s'appelait Everybody Loves a Winner. Et maintenant on va enchaîner avec une lettre. C'est un article dont on nous a fait part. En fait, un article rédigé par Omar Topeladj. Donc, Omar, on avait déjà lu des lettres de lui qu'il avait envoyées à l'Envolée. Donc, on rappelle, journal et émission de radio anticarcérale sur Paris. Et il continue un peu dans ses appels au monde extérieur pour se mobiliser et lutter. Et ses appels au monde extérieur plutôt pour relayer et permettre aussi aux prisonniers de se mobiliser ensemble et de lutter. Et là, il a écrit aussi à Ras les murs, qui est une autre émission anticarcérale, une émission de radio parisienne. Et Ras les murs ont fait circuler son article dans des journaux. Ils ont demandé qu'on fasse tourner un maximum. Donc voilà, on va vous la lire. Donc il est toujours dans ce truc, il faut s'organiser, il faut lutter ensemble. Voilà.
Et oui, du coup là, il avait un peu parlé avant de essayer de monter un syndicat, c'était un peu en essayant de mobiliser des gens autour, et là, visiblement, bah, il a pris, il est devant, et voilà, il monte un peu une première plateforme de syndicat. Donc le syndicat, c'est le syndicat des prisonniers et des familles de prisonniers. Nous appelons cette association syndicat des prisonniers et des familles de prisonniers. Cela constitue ainsi une fédération des travailleurs, travailleuses emprisonnés, et de ceux à l'extérieur qui les soutiennent. L'objectif déclaré est l'évolution de leurs droits respectifs. La plateforme de revendication pourra être rallongée avec les réclamations des syndiqués. Voici les points de base. Premier point. Abolition des travaux dégradants, des métiers non qualifiants et disparus à l'extérieur, en France, ainsi que des rémunérations assimilées aux travaux forcés. Deuxième point. Rémunération des prisonniers, prisonnières au SMIC. Troisième point. Droit aux arrêts maladie et droit aux congés payés. Quatrième point, droit de grève. Cinquième point, droit à la retraite dans les mêmes conditions qu'à l'extérieur. Sixième point, obligation pour les entreprises qui emploient des prisonniers à l'intérieur de leur donner un contrat d'embauche à leur sortie. Septième point, obligation de garder le salarié même si un de ses proches est incarcéré. Huitième point, un délégué syndical par activité et bâtiment ne peut en aucun cas être licencié. Neuvième point, obligation pour l'administration pénitentiaire d'assurer, lors d'un transfert, un emploi équivalent dans le nouvel établissement. Dixième point, dédommagement par l'État, frais de transport, d'hébergement ainsi que des journées travaillées pour les familles qui se rendent au parloir à plus de 100 km de leur domicile.
Il propose aussi d'autres axes de travail à développer, donc la mise en place en dehors de l'administration pénitentiaire et des services sociaux d'une structure de qualification professionnelle sportive, artistique, avec des entreprises, des artisans, des sportifs et des artistes. Création d'une commission pour la mise en place d'une réflexion sur le travail en prison avec la participation des détenus travailleurs. Partenariat avec les organismes comme la Caisse nationale d'assurance maladie, le Pôle emploi, l'Éducation nationale, la Caisse des allocations familiales et la Caisse de retraite, ainsi que des fédérations sportives et socio-éducatives. Mobiliser des avocats pour la défense du syndicat des prisonniers. Collecte de toutes les informations des syndiqués pour l'obtention des promesses d'embauche et d'hébergement pour les sortants de prison. Création d'une caisse de solidarité pour les prisonniers syndiqués. Organisation par les familles de réunions mensuelles dans chaque région autour d'un film, d'un débat ou d'une rencontre avec un prisonnier récemment libéré. Ces rencontres seraient financées par la tenue de buvettes, voire de concerts. Constitution d'un bureau local tenu par des membres des familles syndiquées dans chaque région. Ceci n'est qu'une ébauche d'organisation. En diffusant le message dans toutes les radios et les journaux qui soutiennent la lutte anticarcérale sans exception, comme Le Monde Libertaire, L'Envolée et Caïtsa, ainsi que le site internet Ban Public, nous avons une chance de réussir. Il faudra également leur expédier toutes les lettres des prisonniers pour qu'ils les diffusent plus largement, le plus largement, notamment les lettres qui sont envoyées à ras les murs. L'information détruit les murailles. Personnellement, je ne suis pas pour l'aménagement des prisons, mais pour leur destruction. En attendant, il faut défendre ceux qui sont exploités comme des esclaves. Les ateliers du 18e siècle sont inadmissibles. Les vapeurs de colle forte, de soudure et de peinture sont très toxiques. En l'état actuel, le monde du travail carcéral a 2 siècles de retard. El Hadj Omar Top, Maison Centrale, Écrou 4508, BP5, 36255, Saint-Maur, Cedex. Donc déjà, juste ce qu'on peut dire rapidement, c'est que là, on vous en a fait la lecture, mais bien évidemment, cet appel à la création de ce syndicat, on peut aussi vous le faire passer sur papier et, afin que vous en discutiez entre vous, parce que c'est vraiment ce qu'ils demandent, en fait, qu'une prise en charge par les prisonniers et par les proches. Donc ça, on peut vous le faire circuler, bien évidemment.
Voilà, et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, Omar Topelhadj essaye de lancer ses propositions un peu à plein de gens différents. Mmh. Et donc, on pourra rappeler son adresse, peut-être si vous n'avez pas eu le temps de la noter. Je pense que ça peut vraiment l'intéresser que des gens lui écrivent et lui disent « on a entendu ton appel et voilà ce qu'on en pense ».
Ouais. Bon, alors je répète.
Ouais, qu'on soit motivé ou pas, hein, quoi qu'on en pense. Moi, je sais que ça donne envie de lui dire. Il y a des trucs qui me motivent moyennement. Il y a des trucs que je trouve géniaux et voilà quoi.
Alors, donc à vos stylos, donc c'est Monsieur Top T-O-P, plus loin L, plus loin Hadj, H-A-D-J, écrou 4508. BP 5, 36255, Saint-Maur, CEDEX.
Et puis aussi, si vous voulez nous donner votre avis à vous aussi, enfin voilà, c'est vraiment le but, c'est de lancer des débats sur ces questions, de les faire tourner aussi entre tous les collectifs qui bossent sur la prison, que ça tourne, quoi, des infos, des opinions là-dessus et tout ça, quoi.
Et puis oui, ça vaut le coup que ce soit un échange aussi. Parce que je sais pas dans quelle mesure cette plateforme il l'a rédigée, s'il l'a rédigée seul, s'il l'a rédigée parce qu'il est en quartier d'isolement. Donc voilà, pas trop de contact avec l'extérieur. Donc s'il l'a rédigée seul, s'il y a des gens qui ont proposé des choses avec lui. Donc voilà, le but, je pense, c'est aussi pour lui, hein, c'est qu'il y a des gens qui réagissent. Ça c'est sûr. Mmh. Voilà, après on peut être d'accord, pas d'accord sur la stratégie adoptée, mais bon après voilà, en tout cas c'est c'est une ébauche, c'est un début, et après, voilà, on verra ce que ça peut donner. Mais ça donnera rien si personne réagit, ça, c'est une évidence. Donc voilà.
À noter aussi que dans le journal L'Envolé, il y a d'autres lettres d'Omar qui ont été publiées dans le dernier numéro. Et il y a aussi, en guise de réponse, tout un topo sur les expériences de syndicats de prisonniers qu'il y a eu dans les années 80, sur divers types de luttes qu'il y a eu, d'organisations, etc., pour un peu participer à tout ce débat là qui est lancé par les lettres d'Omar. Donc, je sais pas si vous avez l'adresse en tête pour vous abonner à L'Envolé.
C'est 93 rue de Montreuil, c'est pas ça? Non, je me trompe.
Je ne sais pas. Bon, on la donnera à la fin de l'émission. Voilà, ce serait bien. Et voilà, puis aussi pour dire que c'est intéressant parce que ça rebondit sur l'interview de Sylvie qu'on a écoutée avant. C'est sur diverses formes de lutter, de se mobiliser, de ne pas rester seul. Voilà.
Et là, j'ai l'impression que par rapport aux lettres qu'il a envoyées précédemment et qu'on avait lues à l'antenne, où ça partait un peu dans tous les sens, enfin voilà, après, ça peut se comprendre de sa position, mais là, j'ai l'impression qu'il a un peu recentré le truc sur justement les conditions de travail. Les conditions de travail à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on en a souvent parlé. S'il y a des gens à l'intérieur qui nous écoutent, ils savent ce que c'est. Et c'est vrai que zéro droit, être payé à coup de fronde. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est déjà un minimum par rapport à ça. Et d'essayer de faire bouger les choses rien que là-dessus, je pense que ça peut être... droit d'avoir un salaire, droit d'avoir des congés payés. Bon, voilà, c'est des choses qui, pour les gens à l'extérieur, peuvent paraître banales, mais qui, à l'intérieur, prennent une autre dimension, quoi. Mais, et voilà.
Alors moi, par contre, je vais me mêler peut-être de ce qui ne me regarde pas et que je ne connais pas, mais il y a aussi beaucoup de prisonniers qui ne sont pas des travailleurs.
Tout à fait, ouais.
Et soit parce qu'ils refusent de travailler, parce qu'ils ne veulent pas se faire surexploiter, ils ne veulent pas rentrer dans ce jeu, et ça veut dire qu'ils assument de galérer à fond, soit aussi parce qu'ils voudraient travailler et qu'ils n'en ont pas le droit, parce qu'il faut... déjà montrer profil bas et rentrer dans le jeu de la carotte et du bâton souvent pour avoir l'immense honneur de travailler et de se faire exploiter. Donc c'est, enfin voilà, c'est juste pour dire, il faut bien se rendre compte qu'il appelle à la création d'un syndicat des prisonniers travailleurs. Il n'y a pas que les travailleurs, loin de là, quoi.
Puis il le dit très clairement, le travail en prison, c'est des travails qui est complètement inintéressant et qui date d'un autre siècle, c'est-à-dire assembler des boulons, enfin des trucs qui en aucun cas participe à autre chose que le travail.
Ouais, mais voilà, c'est un angle d'attaque, quoi. Et justement, pour rebondir là-dessus, Je voulais faire donc on voulait faire deux micro-infos. Ce sera très rapide parce qu'on n'a pas plus d'éléments, donc on ne va pas se permettre de plus en parler. Mais pour info, il y a des gens, des détenus de la maison d'arrêt de la Talaudière qui ont commencé à lancer une procédure de plainte auprès du tribunal administratif au sujet de leurs mauvaises conditions de détention. Voilà, ils sont suivis par un avocat. Le truc va faire peut-être un peu plus de bruit plus tard, mais on voulait juste dire que ça a été lancé et qu'on suit ça. Et que aussi, par exemple, il est possible de nous contacter si vous voulez en savoir plus sur comment ça se passe, les démarches et tout. Puis je pense que dans la prochaine émission, on en parlera ouais. beaucoup plus précisément. Et dans le même ordre d'idée un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, chères auditrices, en septembre, il y avait eu une espèce de descente et de fouille au parloir sur les visiteurs et visiteuses qui venaient voir leurs proches au parloir. Et puis, il y avait 7-8 nanas qui s'étaient fait serrer pour détention de stupéfiants, qui étaient passées en comparution immédiate et qui avaient pris des 6 mois de sursis et puis des amendes. Donc, on en avait parlé. Et puis, qui se sont fait sucrer leur droit de parloir, suspendre. Et donc... Quand le permis de visite est suspendu, c'est soit définitif, soit momentané. Et donc, en gros, il y a une... Donc, c'est quand même une grosse punition. Tu ne peux plus aller voir ton proche au parloir et tu ne sais pas pour combien de temps. Donc, il y en a qui ont retrouvé leur permis de visite. Il y en a, pour qui le problème ne se pose plus parce que leur proche est sorti. Tant mieux pour elles, tant mieux pour eux. Et il y a une personne qui s'est vue retirer définitivement son permis de visite. Et il y en a une autre, ça fait des mois et des mois, quelle galère, elle ne sait pas, donc ça fait 8 mois quand même, je crois, elle ne sait pas si un jour on va lui rendre son permis de visite, et malgré les lettres répétées de elle et de son compagnon, ils n'ont aucune réponse. Donc voilà, pareil, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus, on est en train d'essayer de suivre ça. S'il y a des gens qui ont des choses à dire sur cette histoire, des précisions, etc., n'hésitez pas, bien entendu, à nous en parler. Et aussi, si jamais il vous arrivait la même chose et que vous avez besoin d'infos et de soutien, voilà, parce que voilà. Ça fait partie, c'est des peut-être plus petites luttes, mais ça fait vraiment partie des luttes, quoi.
Surtout au risque peut-être de m'avancer un peu trop vite, mais à cette personne qui est toujours en attente de savoir si son parloir lui sera de nouveau accordé ou pas, elle a voulu apporter du linge. Le linge, c'est quand même important de recevoir du linge de l'extérieur en maison d'arrêt. Elle a voulu lui apporter du linge. On lui a dit, non, vous n'êtes pas de parloir, donc vous ne pouvez pas apporter de linge.
Voilà.
Alors que moi, j'ai déjà, pour ma part, apporté du linge au parloir sans avoir de parloir avec la personne pour laquelle j'apportais du linge. Donc, il y a toujours des espèces de versions comme ça qui viennent... des espèces d'informations... un peu fausses qui sont lâchées et vérifier, mais normalement on peut apporter du linge au parloir pour quelqu'un avec qui on n'a pas de parloir.
Ouais, mais voilà, il y a peut-être une forme un peu d'acharnement, oui. C'est ce qu'on a dit déjà, c'est il faut
très probablement
quand même continuer à se bouger, demander à 2-3 gens d'envoyer des lettres ou de passer des coups de fil, et puis des fois ça se débloque, quoi, donc faut pas hésiter. Voilà, à suivre. My style is the best. Fuck when we smoke now. Fuck when we smoke, down. Alors voilà, là on a écouté une petite instru du groupe de hip-hop de Lille, Radical Crooners. On avait passé la même, si vous avez remarqué, au milieu de l'interview de Sylvie tout à l'heure. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Dio, l'émission Papillon, donc en, comment dire, en exil, à cause du déménagement de Radio Dio. Voilà, on enregistre en différé, donc on est un petit peu troublés. J'espère que ça ne se ressent pas trop dans l'émission. Voilà, donc on voulait clore cette émission. Quelle heure est-il ? Il nous reste un petit quart d'heure. Voilà, donc on voulait clore cette émission avec revenir sur la question de la sortie de prison. Donc pour ceux qui ont écouté les dernières émissions, il y a un ami qui est incarcéré à la Talaudière, Nabil, qui nous avait invités et qui invitait un peu tous les gens qui se sentent concernés par la question de la prison à réfléchir à cette question de la sortie de prison, au fait que les prisonniers, ils ont besoin d'être soutenus pour les aider à sortir au plus vite, notamment en profitant d'aménagements de peine, mais aussi de la nécessité de s'entraider quand on est sorti, après la sortie, de s'entraider et d'être soutenu pour les gens qui sont sortis, voilà.
C'est un peu le point qu'énonçait Omar aussi dans son courrier, enfin dans les pistes à discuter en fait.
Et aussi, c'est intéressant parce que ça renvoie à des choses que nous a dit Sylvie sur la réinsertion, dont on n'était pas toutes les trois tout à fait d'accord, voilà. Et en fait, Nabil, il nous invite vraiment à penser que la sortie de prison, c'est pas qu'une partie de plaisir. Une libération conditionnelle, c'est encore moins une partie de plaisir. Et aujourd'hui, entre autres, on va lire des extraits de ces lettres qui donnent des points de vue à ce sujet et qui nous permettent d'amorcer un peu le débat là-dessus. Donc, j'ai encore perdu mon papier sur la libération conditionnelle. Voilà, je voulais revenir un peu sur ce que c'était en théorie une libération conditionnelle pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est une mesure dont un prisonnier peut être bénéficiaire à partir de la moitié de sa peine ou des deux tiers de sa peine pour les récidivistes. Voilà, donc c'est le fait de sortir de prison sous certaines conditions. Donc par exemple, si t'as pris 6 ans, au bout de 3 ans, bon bref, etc. Donc pour ça, c'est soumis à des grosses conditions qui sont en gros théoriquement de manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale et des garanties d'efforts de réinsertion pour éviter la récidive. Donc notamment les critères, c'est d'avoir en prison une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation, de participer à sa vie de famille, de suivre un traitement médical, ou de s'investir dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion, notamment rechercher un emploi. Voilà, c'est le juge d'application des peines ou le tribunal d'application des peines qui va décider si vous avez droit d'une sortie en libération conditionnelle. Voilà, donc la libération conditionnelle, c'est une période où on sort de prison avant la fin de sa peine et on est mis à l'épreuve, en fait, pendant une durée déterminée, au terme de laquelle on va être considéré comme définitivement libéré. Et pendant toute cette période, on est surveillé par le juge d'application des peines et par un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Et voilà, donc je disais, il y a une durée déterminée pour la libération conditionnelle. Cette durée, elle ne peut pas être inférieure à la durée de la peine non subie au moment de la libération, et elle ne peut pas la dépasser de plus d'un an. Donc en gros, concrètement, ça veut dire que par exemple, pour quelqu'un qui aurait pris 10 ans, à partir de 5 ans, il peut sortir la moitié de sa peine, et ça va courir sur au moins 5 ans encore, voire un an de plus. Voilà, à savoir qu'après, il y a tout le jeu des remises de peine et des grâces, c'est-à-dire que quand on prend 10 ans, après il y a tout un calcul, on en a déjà parlé, de remise de peine, qui fait que quand tu prends 10 ans, ta peine effective est un peu moins longue, et tout ça, c'est aussi tout un calcul un peu savant qui est conditionné au comportement qu'on a en prison pendant sa détention. Voilà, la personne qui est condamnée et qui sort en libération conditionnelle, elle doit respecter un certain nombre de mesures de contrôle, c'est-à-dire résider au lieu fixé par la décision, signaler tout changement, répondre aux convocations du JAP, le juge d'application des peines, ou du travailleur social du SPIP, donner des renseignements et rendre des comptes sur son emploi, ses moyens de subsistance, etc. Et par ailleurs, elle peut bénéficier de mesures d'aide et d'assistance psychologique ou matérielle prises en charge par le SPIP. Voilà, et donc si tout se passe bien, entre guillemets, si on rend des comptes, etc., à la fin du délai d'épreuve, donc de la durée qui a été fixée, s'il n'y a pas eu de souci, la personne condamnée est considérée comme libérée définitivement. Voilà, c'est clair ou...
Très ouais. clair.
Tout à fait. Okay.
Et par contre, et là c'est là où le bât blesse, c'est que le JAP ou le tribunal d'application des peines peut décider de révoquer la conditionnelle en cas de nouvelle condamnation pendant le temps d'épreuve ou en cas de non-observation des obligations prescrites. Donc, c'est-à-dire si on n'habite pas là où on a dit, si on ne travaille pas alors qu'on a dit qu'on travaillait, si on ne suit pas le suivi médical auquel on a été forcé, etc. Et dans ce cas, la personne est réincarcérée pour effectuer soit la totalité de sa peine, soit une certaine durée qui a été fixée par le JAP. Donc voilà en gros pour l'info théorique sur ce que c'est qu'une libération conditionnelle. Maintenant on va en venir plus au point de vue et impressions qui nous ont été livrés par Nabil dans des lettres. Mais avant ça je voulais faire 2-3 commentaires. Donc en fait voilà, donc pour bénéficier de remise de peine ou d'aménagement de peine, il faut montrer qu'on fait des efforts. Donc ce qui est considéré comme effort par l'administration pénitentiaire et la justice. Faut montrer qu'on se plie à ce qu'on attend de nous, même si c'est des critères qui sont aberrants ou impossibles, ou si c'est des critères qui nient complètement ce qu'on est soi-même. Voilà. En prison, il y a faut se rendre compte qu'il y a une énorme pression sur tous les comportements qu'on peut avoir. Et on sait qu'au moindre faux pas, ça peut repousser la date de sortie, ça peut te sucrer tes remises de peine, etc. Ensuite, quand on sort de prison, qu'on soit en conditionnel ou pas, mais d'autant plus si on est en conditionnel, on subit toujours une grosse pression qui est liée à cette peur de retomber, en fait, qui est beaucoup plus grande qu'avant une première incarcération. Et voilà, donc on va voir que Nabil, il décrit cette impression d'être en prison dehors. Voilà. Parce que pour ne pas retomber, il faut suivre des contraintes, soit qui peuvent nous déplaire, soit qui peuvent être impossibles à tenir. Par exemple, se forcer à travailler alors qu'on se fait surexploiter ou alors qu'on ne trouve pas de taf, rendre des comptes au SPIP ou au juge, être obligé de se soigner alors que parfois les soins qu'on nous impose ne nous semblent pas adaptés. Et moi, je pense par exemple à un pote qui n'avait absolument plus le droit de fumer des joints pendant des années après sa sortie et qui était extrêmement surveillé et contrôlé là-dessus. Et enfin, c'est terrible. Voilà, c'est une pression dans ta vie quotidienne et personnelle vraiment énorme, quoi, qu'on subit. Donc voilà, après ces petites considérations, on va vous lire quelques extraits de ces lettres qui permettent peut-être de plus comprendre de quoi je parle.
Voilà, alors, je vais t'expliquer comment je ressens le fait que la condi approche. Tout d'abord, il y a l'espoir. Je me dis que j'ai mes chances. J'en ai jamais demandé parce que je voulais pas être tenu en laisse après mes sorties. Beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'angoisse. Depuis que j'ai reçu le courrier comme quoi il fallait que je prépare ma condi, ça me stresse. Je me pose beaucoup de questions et j'ai un peu peur aussi. Parce que pas qu'on me la refuse, mais qu'on l'accepte. Des questions du style, est-ce que je suis prêt? Est-ce que ça va pas être trop dur? Quelles vont être leurs conditions, etc. D'un autre côté, ça me donne envie. Je suis fatigué d'être ici et j'ai tellement envie de vous voir et de mettre en place mes projets.
Lorsqu'on sort, on croit être libre. La réalité nous rattrape et nous dit « Non, tu es dans une autre prison. Soit tu l'acceptes, soit tu reviens derrière les barreaux. » Et c'est là qu'on se rend compte que quoi qu'on fasse, c'est la prison qui nous attend. C'est pas facile à accepter. Ça arrive d'un coup. Après quelques mois de sortie, plus jamais la vie ne sera la même. Après, il y a toutes les questions. Quelle prison choisir? Et la réponse est dans un long chemin semé d'embûches. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter l'autre prison que l'on m'offrait. Et même aujourd'hui, j'ai des doutes sur mon avenir et j'ai extrêmement peur de cette nouvelle prison dont j'ignore tout ou presque. Quand on sort, on peut être aveuglé par la liberté. Et quand on est déjà dehors, c'est très dur de se poser les bonnes questions, surtout lorsque l'on est déjà rentré dans un cycle.
Si on n'imagine pas ce que c'est de sortir de prison et toutes les barrières qu'implique une libération conditionnelle, c'est pas facile. C'est pour ces raisons que je réfléchissais avant de me décider à déposer une demande de condi. Moi, j'ai déjà l'expérience de sortir de prison. Du coup, je peux prendre plus de recul et me poser les bonnes questions. C'est pas plus simple pour tout le monde d'être dehors que dedans. Je sais, c'est bizarre de dire ça, mais moi, je trouve que c'est plus dur d'être dehors en prison que dedans. Dedans, t'as pas le choix, alors que dehors, les choix sont multiples. Et surtout, ton passé te rattrape très vite et le piège est là. Savoir dire non et prendre un nouveau départ, il faut le construire avant la sortie, sinon c'est l'échec ou la déprime. J'ai jamais fait de condi, mais je compare ça à la liberté provisoire. Il y a les mêmes contraintes et je sais à quel point c'est difficile à tenir.
La norme que la société impose, je la connais. Et d'ailleurs, tout le monde la connaît. Après, faut l'accepter ou non. Cela ne veut pas dire que tu es d'accord. Moi, je sais ce que l'on me demande de faire, et je suis trop épuisée pour ne pas me plier à ce que l'on me demande de faire. À ce que l'on me demande. Je n'ai pas changé d'esprit. Le mal et le bien, je connais pas. Mais je sais comment ils voient le mal et le bien, le légal et l'illégal. Je cherche pas à vivre heureux dans la légalité. Je sais très bien que pour moi, c'est pas compatible. Mon choix est là. Soit je vis dehors, soit je vis dedans. Je préfère vivre dehors en prison que dedans en prison. Je ne sais pas si l'un ou l'autre est plus difficile à vivre. Simplement, dehors, je ne suis pas privée d'amour, alors qu'ici, il n'y a de la place que pour la haine et la violence physique et morale. Il n'y a pas d'ex-voyous, il n'y a que des voyous qui se rangent. Mais c'est pour une seule raison, la peur de se voir à vie derrière les barreaux.
Quand tu sors, les grâces se transforment en sursis et c'est pour tout le monde pareil. En gros, si tu prends 8 piges comme moi, tu as droit à environ 25 mois de grâce, remise de peine et remise de peine supplémentaire. Bah, faut pas croire qu'après la sortie, c'est acquis. Non, non. En cas de récidive, c'est du ferme qui tombe. Soit 25 mois dans mon cas, plus la nouvelle condamnation. Autant dire que si on me remet une grosse affaire sur le dos, je ne sortirai jamais. Je ne ressortirai jamais. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis posé tant de questions sur comment j'allais gérer ma sortie et tout ce que ça implique.
Voilà, donc là, ça nous donne un peu des points de vue personnels sur toutes ces questions. Et après, il revient aussi sur des... Donc c'était des extraits de lettres éparpillés, donc c'est pour ça que ça c'est un peu décousu. Et à un autre moment, il revient, il nous donne un exemple sur ce que signifie concrètement ce qu'ils appellent les efforts sérieux de réadaptation sociale. Par exemple, c'est indemniser activement les parties civiles. C'est vraiment une condition sine qua non pour avoir une libération conditionnelle. Mais il ne faut pas oublier que les détenus, même quand ils travaillent, ils sont très pauvres. Ils touchent moins de 400 euros par mois, voire beaucoup moins. Et ils sont forcés d'indemniser les parties civiles. Et ça peut créer des situations aberrantes, quoi.
Putain de merde. Ils m'ont encore pris de la thune et là, ça devient grave. 571 euros. J'essaie de mettre des thunes de côté ici pour me faire quelques plaisirs et avoir un peu de thunes pour des frais imprévus qui pourraient arriver. Et non, ils me les volent. Le pire, c'est qu'ils me demandent de faire un versement par mois pour dédommager les parties civiles, alors qu'ils me volent. Et c'est pas tout. Si je le fais pas, je pourrais pas demander de perme, condi ou aménagement de peine. Les boules que j'ai. Je bosse pour des prunes depuis 2 mois. Ma paie et les économies s'envolent sans que je n'achète rien. Restez calme, restez calme. Et pourtant une envie de péter en l'air. Je me retrouve avec 20 euros pour le mois. J'ai vraiment envie de tout envoyer balader, de leur dire « Je ne fais plus d'efforts si c'est pour se faire baiser. » Et en même temps, ils me tiennent. Si je ne suis pas le troupeau, il faudra alors que j'accepte de faire 3 piges et j'ai pas encore envie de faire 3 piges, j'en ai marre. Ils n'ont pas intérêt à retoucher à mon fric au mois de décembre ou alors je déclare la guerre et tant pis pour la condi.
Et voilà, et enfin, il y a un autre aspect des choses qu'il évoquait dans ses lettres. C'est le fait que quand on sort de prison, c'est un réapprentissage de ouf, en fait, se réadapter à la vie dehors. Parce qu'en prison, en gros, on est privé de tout et séparé du monde, d'une certaine manière. Et voilà, il explique par peut-être des choses qui paraissent des détails, mais qui n'en sont vraiment pas, ce que c'est que de sortir et de réapprendre à vivre dehors, quoi.
Ça va me faire bizarre la sortie. Il va falloir que je m'habitue à ce nouveau Saint-Étienne que je ne connais pas encore, à part par les photos. Ça fait partie de mes angoisses de la sortie. Parfois, je me surprends à me dire que la prison est moins dure que le moment d'adaptation à la vie en liberté. Je trouve ce genre de pensée très glauque et traumatisante. Se rendre compte que l'on s'habitue à la rate, pensée horrible qui me rend souvent nerveux. J'ai appris à encaisser ces souffrances. Trop conditionné, je vis une vie mécanique où les jours sont identiques. Sortir, c'est casser ce mécanisme durement accepté. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de bosser. Ça me permettra au moins de garder un certain cycle. Reprendre le boulot à l'extérieur est aussi l'une de mes angoisses, moi qui ai toujours évité de travailler.
Parfois, lorsque j'analyse la prison, je me dis qu'elle crée des monstres. Parce qu'un homme ou une femme qui n'a plus ou presque plus de sentiments, que presque plus rien ne peut atteindre, qu'ils en sont à se demander si l'amour ou la haine a un sens, qui oublie la sexualité au point de la vivre en rêve, où la place de la morale est dans un chiotte, ce qui reste d'humain pour certains est l'amitié ou le lien extérieur et familial. Pour d'autres, qui justement n'ont plus ça, ce ne sont plus vraiment des humains mais bien des monstres. Et je ne dis ça sans aucune méchanceté contre eux, car je sais que si je n'avais pas mes amis et ma mère, eh bien je serais comme eux.
Le réapprentissage est aussi amical, social, etc. Par exemple, ici, je pensais beaucoup au look et ça m'a fait poser des questions sur le monde du dehors et d'ici. La mode ici est hors du temps, dans le sens où elle ne va pas au même rythme que dehors. Il y a un décalage. Lorsqu'une mode dehors est terminée, elle arrive ici. Je l'avais plus ou moins constaté la dernière fois que je suis sorti de prison, lorsque j'ai vu des lascars avec des crêtes et des t-shirts roses avec des attributs très efféminés, alors que dedans c'était encore très old school. Pourquoi il y a un lien avec le réapprentissage? Parce qu'on ne comprend pas ce que cela signifie. Il faut comprendre plein de nouveaux codes complètement étrangers. Parfois, je me croyais au musée dehors. Au début de ma sortie, comme si c'était un musée qui me permettait de voyager dans le futur. Ici, la crête arrive maintenant chez les Lascars, quelques années plus tard, et ça fait beaucoup rire les autres qui sont bien old school. Tout ce qui appartient à la sortie est un réapprentissage.
Voilà, donc c'était quelques extraits de lettres pour essayer un peu de lancer le débat sur ce que ça signifie de sortir de prison et ce que ça signifie aussi donc après la sortie de prison, mais aussi d'essayer d'avoir un aménagement de peine ou de l'espérer et d'essayer d'y avoir droit. Voilà, donc le débat, il est lancé, on va essayer de le suivre sur plusieurs émissions, de creuser tout ça. Si vous avez des réactions, bien sûr, participez. Si vous avez des propositions aussi, quoi. On en profite pour donner l'adresse.
De Papillon.
Ouais.
Alors, émission Papillon, chez Radio Dio. Nouvelle adresse ou ancienne adresse?
Ancienne, toujours.
Allez, 14 bis rue de Roubaix, BP 51, 42002, Saint-Étienne, CEDEX 1.
Voilà.
Il y a aussi notre adresse internet, notre mail pour les personnes à l'extérieur. Donc c'est émission papillon tout attaché @riseup.net. Riseup, ça s'écrit riseup.net.
Voilà, donc je crois que l'émission touche à sa fin.
Oui,
on est un peu speed. Qu'est-ce qu'on va dire? Un grand bonjour à Mathieu, à Nabil, gros bisous, merci pour tes contributions. Bonjour aux autres qui nous écoutent depuis l'intérieur de la Talo ou peut-être même de la prison de Corba, vu qu'on est rediffusé sur Radio Canu à Lyon. Mais bonjour aussi aux autres qui nous écoutent de dehors.
Une grosse bise à Sylvie, on la remercie d'avoir bien voulu témoigner. Et puis Nabil, je te fais de gros bisous et j'espère te voir bientôt.
Voilà, et puis cette émission elle sera rediffusée sur Radio Dio 89.5 FM le jeudi 16 juin à midi.
Voilà, et on se revoit dimanche dans un mois, premier dimanche du mois, au mois de juillet à 17h30, comme tous les mois.
Voilà, et pour les gens pour qui c'est possible, il est possible de réécouter, télécharger cette émission sur le site internet, le numéro 0. Voilà, et on va se quitter en écoutant...
Et juste dire, en espérant que pour le mois prochain, on ait des courriers aussi, parce que cette émission, c'est pas nous qui la faisons, mais enfin, c'est vous qui la faites, quoi. Et le papillon, il faut vous approprier l'outil qu'on propose, quoi, qui est la radio.
Carrément.
Ce serait bien.
Et on a déjà une lettre en perspective pour le mois prochain.
Ouais.